Bonjour et bienvenue à Regards croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Alors, on est à la première émission de cette semaine,
oui,
qui commence aujourd'hui lundi. C'est aujourd'hui, hein, c'est bien ça. Alors,
on a deux invités.
Lundi 16 novembre. Voilà, Arlette, comment vas-tu?
Mais je vais bien.
Oui.
Je vais bien.
Moi aussi.
Aucun signe de Covid, donc tout va bien.
J'attends pas à ce que tu me demandes comment je vais. Je dis, je vais bien.
Mais
moi
je le vois que tu vas bien, puis je te l'ai demandé hors antenne.
Voilà.
Alors, qui reçois-tu?
Toi d'abord, c'est moi qui parle en premier.
Oui.
Moi, je vais recevoir Claudine Roubillac, qui est la coordonnatrice du volet pédagogique des Muses. C'est un centre des arts de la scène. Les détails un peu plus tard. C'est un centre unique au Canada.
Super.
Alors, les détails un peu plus tard.
On va continuer dans l'artistique parce qu'on va recevoir la passionnée et passionnante Carmen Jolin, qui est directrice artistique du théâtre Prospero.
Donc
avec elle, on va.
Ça me fait penser.
Ça va être encore un beau moment génial.
Ça me fait penser à l'apéro.
Bon. On part en musique avant.
On part en musique avec Zoé. Oui, ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est une jeune métisse germanique allemande de Hambourg, 18 ans.
Oui.
Qui a sorti un tube. Moi, j'appelle ça un tube parce que c'est 4 millions d'écouteurs, plus de 4 millions par mois. C'est fou, hein. C'est fou. Control.
Comme elle nous vit pour l'émission.
Voilà, c'est une jeune fille qui vit avec l'épilepsie.
D'accord.
Elle a 18 ans.
Ok, alors on l'écoute.
On l'écoute. Control.
Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express so thankful I am.
comme je disais, Zoé with Control. On a déjà notre invitée au téléphone, Claudine Robillard, coordonnatrice du volet pédagogique des Muses, c'est le Centre des Arts de la Seine. C'est elle qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette école-là, dans ce centre qui est unique au Canada. Bonjour. Madame Robillard.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
On va bien ici en studio avec
on
nous.
On attend avec impatience que vous allez nous apprendre.
Voilà, ce qu'on va découvrir.
Oh mon Dieu, c'est beau de voir que je suis attendue comme ça. C'est un plaisir de vous parler.
Alors, c'est Patty, vous êtes la responsable, la coordonnatrice du volet pédagogique. Donc, dans un premier temps, vous allez nous parler d'abord de ce centre, sa mission, le centre de formation unique en art pour personnes handicapées.
Oui, c'est ça. Donc, je travaille pour les Muses, qui est une petite école qui offre une formation professionnelle en art de la scène à des adultes qui vivent avec un handicap. Donc, que ce soit une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de l'autisme, des limitations sensorielles ou physiques, c'est cette clientèle étudiante-là à qui s'adresse la formation. Et c'est une formation à temps plein, 5 jours par semaine. Une formation multidisciplinaire, donc un peu comme une formation qu'on retrouve là dans les grandes écoles, que ce soit au conservatoire ou à l'école nationale. Donc, une formation axée surtout sur le théâtre et la danse. Et cette formation-là, j'insiste là-dessus, là, mais vise à former des artistes neuro-atypiques professionnels, vraiment en vue de les intégrer dans le milieu artistique professionnel. Donc, on n'est pas un centre de loisirs.
Oui, c'est pas un centre de loisirs juste pour apprendre, pour s'amuser, là. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Puis, nos étudiants vraiment suivent toute une audition. En fait, ce n'est pas qui veut, qui peut suivre les cours aux Muses. Il y a une audition qui s'échelonne sur 6 mois. Où les nouveaux candidats sont invités à suivre les différents cours au programme pour voir s'ils ont un certain talent. Évidemment, on s'attend pas à ce qu'ils soient déjà de grands acteurs ou de grands danseurs, mais on est très, très à l'écoute dans ces premiers mois-là pour voir si la personne devant nous, à l'issue d'une solide formation en art de la scène, pourrait exercer le métier d'interprète, de comédienne à un niveau professionnel. Donc,
j'ai vu des comédiens ou comédiennes au théâtre.
Oui, ben exactement. Nos étudiants, lorsqu'ils atteignent un niveau avancé, sont intégrés dans des productions professionnelles. Donc, vous les avez peut-être vus dans le cadre peut-être de projets de pièces signés, par exemple, par la compagnie Joe, Jack et John.
Tout à fait.
Qui souvent travaille avec nos étudiants, ou ça peut être dans un film aussi.
Oui,
récemment, il y a eu le film Gabriel de Louis Archambault, là, qui a vraiment donné, qui a vraiment offert un rayonnement sans précédent aux Muses. Mais donc, c'est ça, ou dans différents téléromans, nos étudiants ont participé à, par exemple, Fait d'hiver ou quoi d'autre, là, Unité 9, Léo. Donc, vraiment, on les voit dans plusieurs productions professionnelles. Et je vous avoue que certains ont vraiment une carrière enviable. Là. Ils sont parfois en tournée. Certains étudiants devaient partir en Australie. Prochainement, avec la COVID, là, tout ça a été un petit peu freiné.
Les voyages sont
oui, je vais vous demander plus tard avec la COVID comment ça se fait. D'ailleurs, et puis vous fonctionnez aussi comme agent d'artiste pour ces personnes que vous formez en théâtre, en cinéma et en télévision.
Ben oui, en fait, on se retrouve aussi à avoir ce rôle-là auprès de ces artistes-là, parce qu'en plus de les former professionnellement, comme je vous expliquais, puis c'est vraiment une formation qui s'échelonne sur plusieurs années, le but, c'est vraiment de les inclure dans le milieu professionnel. On ne veut pas créer une troupe professionnelle et qui créerait en marge du milieu. Vraiment, le but, c'est de les intégrer dans le milieu professionnel. Oui, de les mêler parce qu'on croit à la richesse de cette rencontre-là entre artistes neurotypiques et neuroatypiques. Mm-hmm. Donc, une fois qu'ils sont formés, on se retrouve à agir en tant qu'artiste artistes, agents d'artistes, pour vraiment les accompagner dans les différents contrats professionnels.
OK. Vous avez une nouveauté cette année, c'est le laboratoire inclusif et de recherche et création artistique, le LIRCA. Quel est le but de ce laboratoire? À qui ça s'adresse? Et puis, bon, quel impact souhaitez-vous apporter avec ce projet auprès de ces personnes handicapées, des artistes non handicapés et du grand public?
On est très, très enthousiastes. Effectivement, là, c'est un nouveau projet qui a lieu en ce moment, là, pendant que je vous parle. Le laboratoire devait avoir lieu en mai passé et a été repoussé. Et là, il a lieu pendant le mois de novembre. Oui. En fait, ce projet-là, c'est l'idée de rassembler 5 artistes professionnels sans handicap et 5 artistes en formation au MUSE, donc des artistes avec un handicap. Donc, on met toutes ces belles personnes ensemble et on les invite à vivre un processus de création dirigé par un chorégraphe chevronné, reconnu du milieu artistique professionnel. Donc, pour ce premier laboratoire inclusif-là, c'est vraiment là un projet pilote pour l'instant, mais on apprend beaucoup au fil de ce laboratoire-là et on espère vraiment qu'il y aura d'autres éditions. Donc, pour ce premier laboratoire-là, on s'est tourné vers un chorégraphe qui s'appelle Jacques Poulain-Denis, qui est à la tête de la compagnie Grand Poney, un artiste, un chorégraphe très multidisciplinaire. Et on l'a invité à travailler pendant une quarantaine d'heures en studio en vue de créer une courte performance scénique en collaboration justement avec ces 10 artistes-là qui composent, en fait, qui forment une distribution mixte. Hein. Donc, on a vraiment décidé pour ce premier laboratoire-là d'aller dans une forme, je dirais, paritaire. Là, donc, autant d'artistes avec handicap, autant d'artistes sans handicap pour créer cette rencontre-là qu'on pressent très, très riche. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de rapprocher deux communautés d'artistes qui, somme toute, se côtoient peu parce que, justement, ils ont des parcours académiques souvent très différents. Et on croit que ces rencontres improbables-là, si vous voulez, sur le terrain de la création, mais ça peut être tout à fait nourrissant pour le milieu, pour la création. Donc, ce laboratoire-là nous permet de vraiment d'observer comment on fait pour créer avec une distribution mixte, comment on fait pour faire se rencontrer ces artistes-là qui ont un vécu, qui ont une vision du monde nécessairement différente, et comment ces artistes-là qui vivent avec un handicap ont vraiment une valeur distinctive, là, une valeur artistique, et comment ils peuvent nourrir un processus de création s'ils sont bien accompagnés. Et voilà, donc c'est très, très, très riche en ce moment ce qui se passe en studio de répétition. C'est vraiment un moment privilégié pour voir quelle stratégie inventer pour favoriser ce genre de projet inclusif-là, comment accompagner les artistes avec handicap, les artistes sans handicap et même le chorégraphe invité, comment mettre en place la table pour que la rencontre ait lieu et que la création soit riche.
Ouais, je vais prendre la balle au bon en même temps quand vous parlez de répétition en salle. Quelles sont les mesures? Quel a été l'impact de la pandémie, les mesures sanitaires et puis la représentation web ou bien non en salle? Comment ça se passe?
Ben évidemment, là, c'est comme tous les artistes en ce moment, ça nous a demandé beaucoup d'adaptation. Au départ, on pensait que le fruit de ces 40 heures de laboratoire-là allait être présenté devant un tout petit public. Bon, là, rapidement, on a oublié l'idée, là, il n'y aura pas de spectateurs invités à assister à cette courte forme-là. Donc, on va filmer, on va capter là, en image et en son ce laboratoire-là. Évidemment, on porte les masques, on est tout en distanciation physique. Donc, ça s'ajoute, si vous voulez, comme défi et comme contrainte. Mais je vous dirais que ça se passe bien jusqu'ici. On a une toute petite équipe de tournage qui capte et documente le processus. Et on voit de très belles choses, les défis pour chacun se déploient et on essaie d'en prendre soin et de voir comment bien accompagner le processus.
Ouais. Où est situé votre centre de formation?
Le centre de formation, il est sur Saint-Hubert et Laurier, au centre Champagnat, donc qui est un centre d'éducation adulte. Oui. Mais on a aussi des locaux, des studios plus adaptés, si vous voulez, à l'apprentissage des arts de la scène. Donc, on a le Conseil des arts de Montréal, par exemple, nous prête ses locaux. Et là, en ce moment, on est au Studio Biz pour faire le laboratoire de création en ce moment. Puis, je veux vraiment insister sur le fait que le laboratoire inclusif de recherche et création, c'est vraiment, ça se veut une réponse au désir d'inclusion qui se fait sentir actuellement, là, tant au sein des institutions de formation professionnelle, et tant au sein du milieu artistique. Donc, en ce moment, là, on sent que les créateurs manifestent un réel désir de collaborer avec des artistes issus d'autres origines, des artistes qui ont un autre vécu. Et c'est la même chose au sein des institutions. On cherche à intégrer des étudiants qui ont un autre parcours académique. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'initiatives qui se font sur le terrain de l'enseignement professionnel parce que ça demande une certaine expertise et différentes stratégies.
Alors, pour les personnes handicapées dont vous vous occupez là, comment sont financés les cours? Est-ce que les gens sont subventionnés ou bien comment ça se passe au fait?
C'est une formation totalement gratuite et on tient à ce que ça reste gratuit.
C'est gratuit et ça doit rester gratuit.
Oui, on pense pour être le plus accessible possible. Donc, les MUL sont soutenus de la part du fédéral et du provincial et on compte plusieurs là, donateurs et commanditaires fidèles et généreux qui soutiennent.
On leur dit bravo et merci en même temps. On profite de cette antenne pour leur dire merci et bravo
oui,
de vous soutenir pour le beau travail que vous faites d'ailleurs.
En tout cas, on apprend beaucoup puis on pense que ça peut vraiment servir non seulement à ces artistes-là qui vivent avec un handicap, mais évidemment aux artistes sans handicap. On trouve qu'ils ont tout à apprendre à collaborer avec des artistes neuroatypiques qui ont, comme je vous disais, une vision du monde différente, des corps différents, des manières de bouger, de s'exprimer différents. Je pense qu'il y a une grande richesse dans cette rencontre-là.
Oui. Alors, vous avez un site web, on peut le communiquer, c'est lesmuses.org, c'est bien ça, org.
Oui, tout à fait. Puis c'est-à-dire que c'est un projet, le laboratoire inclusif de recherche et création, qui a eu la chance d'être soutenu par la Maison d'innovation sociale dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'incubateur civique.
Oui.
Donc c'est vraiment la Maison d'innovation sociale nous a vraiment permis de réfléchir et de voir comment déployer ce projet-là novateur. Donc, on a pu vraiment réfléchir et voir venir les défis au fil de cet accompagnement-là qui s'est déployé sur plusieurs mois.
Oui.
Donc, sur la page, sur le site web de la Maison d'innovation sociale, dans la section Actualité, il y a aussi un résumé, si vous voulez, là, du laboratoire inclusif.
Du laboratoire inclusif.
Pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus.
Il y a aussi votre page Facebook, facebook.com/Centre Les Muses.
Oui, aussi.
Un dernier mot à nos auditeurs, surtout aux personnes handicapées qui aimeraient vous contacter, qui ne connaissaient pas cette école, ce centre de formation. Et s'ils nous ont écoutés, qui vont dire, tiens, j'aimerais bien. Quel conseil vous leur donnez? Quelles sont les démarches à prendre pour vous contacter pour la dernière minute de l'entrevue?
C'est sûr que ceux qui sentent, qui ont une fibre artistique très forte et qui ont envie de s'investir dans ce parcours académique-là, vous êtes les bienvenus d'appeler aux Muses au 514-350-8060 poste 8834. Il y a vraiment une coordonnatrice destinée là, consacrée au service aux étudiants qui va vous répondre, vous poser des questions et voir si votre place, si vous pouvez trouver votre place au sein des Muses. Je vous invite à le faire si vous vous reconnaissez si vous sentez que vous avez une fibre artistique, un talent, un certain talent, que ce soit en danse, en chant, en théâtre. Et on espère que ce genre d'initiative-là, de rencontre entre artistes atypiques et artistes sans handicap puisse se faire plus fréquente, en fait, parce que je crois sincèrement que la la vitalité de notre pratique artistique en dépend, en fait, de ces rencontres-là qui déstabilisent, qui ouvrent les horizons. J'en suis convaincue. J'espère juste que la diversité qui est sur les bouches de tout le monde en ce moment ne s'arrêtera pas à la diversité culturelle, mais fera aussi une place à cette diversité-là que peuvent nous apporter les artistes avec un handicap.
Avec un handicap. Merci beaucoup, Claudine Robillard, coordonnatrice du volet pédagogique du Centre de formation Les Muses. Je vous le dis, c'est un centre unique au Canada. Alors, merci, bravo à vous pour ce beau travail que vous faites avec toute l'équipe.
Merci à vous.
Et au plaisir de vous réentendre ici pour un autre projet, si vous avez des choses à nous annoncer.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Ouais, merci. Au revoir.
Parmi.
Parfois les hommes prennent la fuite parce que bébé rime avec responsabilité. Je l'ai quand il buvait sa bouteille. Il t'a déjà tapé devant ton bébé. C'est le père de tes enfants, mais c'est die die. Tu n'avais plus le choix, t'as dit bye bye. C'est tes larmes, tu dois l'oublier. Il ne te mérite pas, tu dois l'oublier. Il t'a fait du sale, il a tout bousillé. Même si c'est dur, tu dois l'ignorer. C'est tes larmes, tu dois l'oublier. Il ne te mérite pas, tu dois l'oublier. Il t'a fait du sale, il a tout bousillé. Bachata, beauté africaine, on t'appelle Mami Wata. T'es décidé, tu charbonnes tous les matins. Fais confiance aux hommes car c'est tous des bâtards. Doucement avec ton nouveau job, tu dois contrôler ta libido. Doucement avec ton nouveau job, tu dois contrôler ta libido. Il t'a prise pour une conne, tu dis que c'est pas le bon. Sèche tes larmes, tu dois l'oublier. Il a tout bousillé. Même si c'est dur, tu dois l'ignorer. C'est tes larmes, tu dois l'oublier. Il ne te mérite pas, tu dois l'oublier. Il t'a fait du sale, il a tout bousillé.
D'accord, j'ai cru que t'allais me traiter d'idiot, j'allais dire là, non. Ça va très très mal se passer.
Je t'ai même pas regardé en disant, c'est le titre de la pièce, faut pas m'en vouloir. Alors, très beau sujet,
oui,
ce centre.
Ils ont des subventions, j'espère, pour les aider, pour tout ça.
Oui, c'est ce qui fait que j'ai posé la question, c'est gratuit.
Mais oui, mais il faut bien avoir des aides aussi pour fournir
oui,
tout le matériel.
Le Conseil des Arts de Montréal, le Conseil des Arts des Lettres et du Québec et autres, la ville aussi. Ouais, ça, sinon, ils n'allaient pas donner les cours gratuitement.
J'espère que ça va perdurer dans le temps.
On espère, on espère.
Il y a des choses qui se font comme ça de temps en temps, puis il y en a d'autres.
Ça fait un moment quand même qu'ils sont sur le marché. Hein. C'est depuis 2001.
Oui, oui 20 ans, alors. Bientôt.
Oui. Depuis 2001. Et donc, théâtre, danse, reconnu au Québec et à l'étranger. C'est des gens qui peuvent travailler même à l'étranger. Et puis, c'est bien précisé. Elle a dit, c'est pas pour ceux qui veulent apprendre ça juste pour du plaisir. Non, c'est pas leur place. Elle dit, ceux qui viennent là, c'est pour être des professionnels en danse, en théâtre,
oui.
En télé. Oui.
Il faut bien tenter aussi l'expérience parce que c'est des gens, il y a peut-être des personnes qui ont l'impression qu'ils sont prêts pour du professionnel et puis d'autres qui ont l'impression qu'ils ne le sont pas assez, puis il faut qu'ils viennent pour se faire découvrir aussi.
Oui, mais dans ce cas, il ne faut pas prendre la place des gens qui sont handicapés mais qui aimeraient travailler professionnellement dans le milieu. Voilà.
Oui, mais je parle de personnes handicapées qui viendraient en croyant qu'ils n'ont pas de talent et puis qui pourraient se faire découvrir d'une autre façon.
Ils font un casting, ils font un casting pour savoir si la personne vraiment
a de la valeur pour
l'école. elle veut vraiment rester là jusqu'à la fin de la formation parce que ça dure des années. Oui. Et si elle veut s'impliquer.
Faut que ce soit une passion qui tient au ventre.
Oui. J'aime ça. Une passion qui tient au ventre, voilà.
Ah bah là, je pense que tu me fais le lien avec notre invitée de la deuxième demi-heure parce que elle a la passion chevillée au ventre depuis des années. Donc, elle peut nous en parler largement de ce que c'est que d'être passionnée, de savoir traverser des époques qui, des fois, flottent sur des eaux généreuses et d'autres fois sont un peu au fond d'un trou, mais continuer à persévérer parce que la passion est là.
Quand la passion est là, même quelle que soit la profondeur de l'abyssal, on revient.
Voilà, c'est ça.
Voilà, quand je vois des noms ici comme ça, théâtre, voile au-dessus d'un nid de coucou 2017, mise en scène de Michel Monti, théâtre du rideau vert. Tu vois, c'est quand j'étais un animal manuel de taxidermie 2004, ce soir à la mer qui se prend son bain, prend son bain 2005, go shopping et je fais le mort 2006. Just Fake 2010, il y a tellement en danse, Quasi Space 2009, ce sont des projets qui ont permis, c'est cette école qui a permis à ces personnes handicapées de participer à ce genre de projets-là.
C'est bien.
C'est multidisciplinaire, leçon 2004, le temps des marguerites, à la folie ou pas.
Ah oui,
pas,
c'est vrai, voilà. Les marguerites, j'ai vu ça.
Oui, à la folie ou pas du temps 2008, Pharmacon 2011, Centre 2019. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, Arlette.
On continue en théâtre.
Restez avec nous.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors avant de retrouver Carmen Jolin, la directrice artistique du Théâtre Prospero, on va partir en musique avec Camille Berthaud qui nous chante suite au prochain numéro.
Toi qui attends la suite, je vais y donner suite. Voici donc à la suite. Suite à ton exigeante écoute. Un prélude qui ressemble d'après moi beaucoup plus à une suite. Non pas que les musiciens veulent rejoindre leur suite. Mais jouer trop de notes à la suite peut entraîner parfois des suites fâcheuses. Suite à un malaise, tu devines la suite. Ainsi de suite. J'espère que tu me suis. Nous avons donc songé pour le spectacle et sa poursuite. À une suite de notes à la suite et ainsi de suite. Nous ne manquons pas de suite dans les idées. Et suite à cela par la suite, sans suite une poursuite. Da 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 exemple à suivre. Quand sur viendra la suite. Entraîné par sa suite. De là, de là, de là, de là, espèce ensuite.
Carmen Jolin, bonjour.
Bonjour,
bonjour. Bonjour.
Voilà, je viens de vous présenter dans la première demi-heure en parlant de votre passion.
On s'est déjà rencontrés, on a parlé de ça aussi.
Oui, vous étiez déjà venue et je suis une grande amoureuse du théâtre, alors pensez comme ça me fait plaisir de vous avoir encore.
Merci bien de m'inviter. Je suis très contente d'être avec vous dans cette période.
J'essaie
de communiquer avec les gens, puis de parler de ce qui se passe dans nos théâtres.
Mais oui, c'est ça, puis de parler de territoire de parole, justement. D'ailleurs, je trouvais que, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais je trouve que les premiers mots du communiqué de presse qu'on reçoit, ça fait penser à vous quand on vous connaît un peu.
Ah oui, quels sont-ils ?
Vous voulez que je vous lise ? Ça commence avec « ça brûle, ça jaillit, ça vit, ça bouge, ça lutte, ça fait mal, ça ironise, ça colère, ça brûle, ça aime, ça espère, ça proteste, ça change, ça meurt et ça renaîtra.
» je pense encore tout à fait comme ça. C'est des mots qui sont venus et qui s'accumulaient sur un sur l'autre, dans lesquels il y avait on voit bien qu'il y a une manifestation de la vie et de l'urgence de continuer à vivre. Et puis, il y avait tout ce chambardement de la COVID. Et puis, on a dû remplacer toute la programmation de l'automne par d'autres choses. Et ça s'est fait comme dans l'espace de quelques mois, j'ai rassemblé des personnes à qui j'ai offert de dire, écoutez, pendant cette période, ça serait le temps de faire des moments d'exploration sur des nouveaux textes ou même des manières de faire aussi et d'offrir une occasion de plonger dans des explorations, parce que vous savez, le territoire de parole en particulier, ce que ça a, c'est que ça affirme le besoin qu'on a dans notre milieu de travailler en dehors d'un système de production. C'est-à-dire qu'il faut se réserver des espaces de temps et des moyens pour se donner une perspective de tenter des choses, d'aller vers... d'explorer, de tenter des ouvertures, de découvrir des nouveaux textes, puis de faire, d'engager un processus, mais qui ne s'en va pas vers une production. On n'a pas cette obligation, on est juste dans la liberté totale. Donc on peut...
Ça, c'est merveilleux.
On peut se tromper, on peut revenir un peu, on peut dire le lendemain, ça n'a pas marché, on essaie une autre trace, et puis on y va. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je crois, mais pas seulement moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient qu'on puisse se réserver ces temps-là de façon presque comme instituer ces moments de laboratoire. Et puis pour moi, pendant l'été aussi, ça bouillait, ça chauffait parce qu'il y avait tout ce mouvement aux États-Unis où il y avait le Black Lives Matter. Cette réalité-là m'est rentrée dedans beaucoup, comme à beaucoup de monde dans le monde entier. Et puis, j'ai élargi un peu pas les critères, mais les invitations. Et j'ai demandé à un auteur haïtien qui vivait à Paris à ce moment-là. J'ai demandé comment il sentait, comment il vivait tout ça. Il m'a parlé d'un texte qu'il était en train d'écrire qui s'appelait « Quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les hommes ». Et puis, je l'ai invité à venir à Montréal à faire un laboratoire, de prendre la parole en ce moment-là, puis d'aller vers des sujets ou des préoccupations qui lui sont personnelles, et que mon rôle à moi, c'était plus d'offrir un territoire, d'offrir un espace, d'offrir des moyens, une salle, des techniciens, des collaborateurs, et que la personne puisse prendre sa parole. J'ai fait la même chose avec Mélanie Demers, qui d'ailleurs est entrée en salle aujourd'hui, qui est une chorégraphe, mais qui est très intéressée au texte aussi, qui a presque une approche déjà un peu théâtrale. Et elle a trouvé que c'était une très bonne idée, donc elle entre en salle aujourd'hui, elle va travailler avec des extraits de textes de romans, d'auteurs américains, d'autrices noires, mais blanches aussi, et elle va faire un travail pendant 2 semaines. Donc c'est ça, territoire de parole, donc c'est offrir... un espace, des moyens, des sous, et puis du temps, et surtout un lieu qui est tout bien équipé pour faire des essais sur des œuvres qui seront peut-être, qui auront peut-être un futur ou qui n'en auront pas. Mais en ce moment-ci aussi, plus particulièrement, où les artistes ont été privés de tellement de leur travail, vous ne savez pas à quel point c'est, oui. Ça fait du bien aux gens de se retrouver dans les lieux. C'est incroyable. Les sourires dans les figures, c'est comme un havre. Les gens arrivent dans un havre et peuvent enfin se rencontrer. On évidemment, on a toutes les mesures de distanciation mises en place, puis on est très prudent parce que on est, je pense que le milieu culturel est tellement conscient qu'il doit être prudent et qu'il doit assurer une sécurité. Et on aurait aimé pouvoir accueillir des spectateurs. Bon, ça ne nous est pas permis maintenant. J'espère qu'on aura des annonces meilleures le 23 novembre. Mais on doit agir quand même. Oui. On doit rester vivant. Et
bien
c'est
sûr.
Ce que ça fait.
Mais là, tout en comprenant votre plaisir de vous retrouver, puis le travail, parce que justement, oui. Suite à la pandémie, ça permet peut-être à tous les artistes qui n'auraient pas pu être là, d'être là aussi. On va appeler ça le bon côté de la chose, c'est possible. Mais sur cette programmation quand même, sur cette programmation qui a été annulée, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se refaire pour nous, les spectateurs? On réouvre le théâtre.
Il y a une création qui est déjà prévue pour l'année prochaine, qui a été reportée aux mêmes dates. Il y a une autre qui avait été abandonnée pendant le mois du printemps, qu'on a replacée aussi à l'année prochaine. Bon, il y a une compagnie qui devait, Florencio, qui devait présenter 4.48 psychoses au printemps, mais c'est-à-dire à l'automne, et on l'a déplacée au mois de juin. Donc, on espère. Donc, oui, je réponds à oui. Il y a peut-être un ou deux spectacles qui n'auront pas lieu, malheureusement, mais les autres, on a réussi à les replacer. Donc, ma seule inquiétude, s'il en est une, il y en a plusieurs. Mais une d'elles, c'est qu'on a des projets de création pour janvier, février, mars. Et puis, on a décidé d'aller en production, c'est-à-dire qu'on est déjà en répétition. Ils ont déjà en préparation technique, c'est-à-dire que les décorateurs, les concepteurs, scénographie, tout ça sont déjà en marche. Et on a décidé qu'on allait de l'avant complètement et qu'on va se rendre jusqu'au bout, jusqu'au moment où on répète. Et puis on espère qu'en janvier, on aura une ouverture de salle. Et je pense qu'il fallait prendre cette décision parce que sinon, on reste figé et puis on perd un lien avec notre travail. Et puis, pour les artistes, c'est absolument aussi important. C'est une période déjà très déstabilisante. Donc, je me disais, il faut garder la colonne. Il faut garder une colonne. Même s'il arrive quelque chose que c'est pas possible, il faut se mettre en action. Donc, territoire de parole, même si on peut pas les présenter au public, hein, parce qu'on avait prévu d'autres rencontres avec les publics.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on va pouvoir le revoir après, plus tard?
Bon. Alors, pour ça, écoutez, on a fait des captations, mais pour faire des grandes captations de très grande qualité qu'on peut mettre sur le net, et que les gens vont avoir comme un grand plaisir à les regarder, ça coûterait beaucoup de sous.
D'accord.
C'est énorme. Vous savez, on n'a pas les moyens de payer peut-être que, oui, on peut aller chercher des subventions pour le faire, mais c'est déjà toute une autre organisation que d'aller chercher des sous pour ça. Mais on a fait en ce moment, si vous nous suivez sur Facebook, à toutes les semaines, deux fois par semaine, il y a des clips qui paraissent sur les travaux qui sont en cours dans Territoire de parole. Et j'ai demandé à une écrivaine d'aller sur place et d'écrire ses impressions sur ce qu'elle reçoit. Donc, elle ne fait pas la critique, évidemment, de ce qui se passe. Elle ne fait pas seulement décrire, voici, aujourd'hui, ils ont travaillé sur telle scène, mais elle donne des impressions sur ce qu'elle voit du travail. Donc, il y a une voix qui est parlée, ses textes sont publiés sur notre site Internet et sur Facebook. Et il y a un cinéaste qui vient faire des tournages pendant les laboratoires et qui fait des petits montages et tout ça est accessible sur le site Internet, sur le Facebook. Donc, on a réussi à créer ce lien avec les publics au moins de cette manière-là.
Donc, c'est déjà ça.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça, mais c'est un manque parce que... Enfin, c'est un manque pour moi, pour beaucoup d'autres, parce que quand on lisait ce qui était présenté dans Territoire de parole... Je veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'était vraiment passionnant. Donc.
Mais je sais. Écoutez, j'ai vu des choses. On a tenu un laboratoire avec Guy Régis, là, l'auteur haïtien.
Oui.
Bien, Ils ne pouvaient pas venir au Canada parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un visa d'entrée à cause de la COVID.
C'est ça.
Et bien, pendant 2 semaines, on a travaillé avec, on a mis en place avec une aide gouvernementale de savoir comment on pourrait explorer le travail à distance. Et on a travaillé sur mettre en place une sorte de système dans lequel c'est pas juste être en Zoom parce qu'il fallait avoir des caméras pour qu'ils puissent voir tout ce qui se passait dans la salle, un régisseur qui lui dit, garde, je vais t'amener tel plan, des caméras Zoom. Et on a mis tout un dispositif en place et Guy a pu diriger 6 acteurs qui étaient à Montréal et lui, il était à Port-au-Prince.
C'est fabuleux!
C'est passé de façon magnifique. Et les acteurs disaient, c'est comme s'il était avec nous dans la salle. Et on a fait, et on a traversé ça. C'est des petites victoires, mais
oui.
c'est le bonheur. Les gens étaient tellement contents de pouvoir réaliser ce projet et son texte est assez puissant. Et ça a donné, ce 2 semaines, ça a donné des résultats assez intéressants. Je ne vais pas dire génial, pas du tout, mais intéressants. Ils ont travaillé sur des textes très puissants qui parlaient même de notre époque. Donc, Guy,
quand on lit l'histoire, oui.
Oui, c'est sur les guerres et les conflits, on est en plein dedans.
Discrimination sociale, sexuelle, raciale, il y a tout là-dedans. Hein.
Ben oui, voilà.
Pardon.
Donc, c'était en plein ça. Puis là, aujourd'hui, c'est Mélanie, qui est aussi d'origine haïtienne, qui va travailler avec 4 interprètes de couleur et qui vraiment s'attaque, elle aussi, à quelque chose. Ça s'appelle
Le Cabaret Noir.
Elle avait un autre nom pour ça, mais on a été plus prudent. On avait un autre nom prévu, mais qui rentrait trop dans
les polémiques.
Oui. Mais elle fera ce qu'elle a à faire. Elle est dans la salle maintenant, et si elle a envie de changer ce titre, elle va le faire. Mais voilà, on est tous engagés, tout le monde, dans une sorte de plaisir et d'urgence de faire des choses et de dire des choses. Et tous les artistes qui sont là, oui, les publics manquent de belles occasions de rencontre. Je suis d'accord avec vous.
Mais oui,
quelque chose.
C'est sûr. Mais oui. C'est justement pour ça, au niveau des aides, je ne veux pas parler du sujet qui fâche, mais au niveau des aides gouvernementales, avec ce qui s'est passé en plus, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus pour permettre, si ce n'est de pouvoir le filmer, en tout cas.
Oui, c'est ce qu'ils disent tous, mais vous savez, il y avait une superbe subvention qui était accordée là, au mois de mai, qui était, un 50 millions, je ne me souviens pas du chiffre, je ne veux pas me prononcer là-dessus, pour faciliter les enregistrements live et tout ça. Eh bien, vous savez, un mois, 2 mois après, il n'y avait plus de sous dedans. C'était déjà...
Oh là là.
Il n'y en avait plus.
D'accord.
Tout le monde s'est jeté là-dessus, mais même moi, au mois de juillet, je me suis dit, il faut que je prenne 2 semaines de vacances pour être capable de passer à travers. Mais il était trop tard. Et puis maintenant, évidemment, on peut faire des captations, mais comme je vous disais, aujourd'hui, les gens sont très exigeants. Quand on voit un produit, il faut que ça soit bien éclairé, il faut que la gestion des plans soit intéressante. Mais ça, c'est du travail. Et ça prend, c'est un autre métier presque aussi, de faire de la réalisation.
Oui.
Pour donner, si quelqu'un ne veut pas se mettre devant une répétition pendant 1h30, il va avoir un plan fixe avec parfois juste quelques avancées. Pour nous, pour les créateurs, c'est un bagage intéressant parce que c'est une archive. Mais quand c'est rendu sur des grands réseaux, où les gens vont s'asseoir pendant 1h30 pour regarder ça, il va falloir qu'ils nous pardonnent beaucoup de manquements qui sont des manquements parce qu'il faudrait des équipements beaucoup plus dispendieux, il faudrait avoir une équipe complète qui vient faire du tournage. Et on n'a pas ces moyens-là. Ou en tout cas, on peut le faire pour un projet, mais il faut avoir des sous particuliers pour ça.
Mais en même temps, si je peux me permettre, alors là, je ne donne que mon avis, hein, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais en tout cas, pour avoir vu d'autres pièces de théâtre captées qui sont très bien faites, ce qui me manque, c'est l'atmosphère, c'est le moment où je me lève, c'est le moment où j'ai des larmes dans les yeux parce que j'en pleure tellement j'ai été émue, parce que j'applaudis, parce que je suis ensemble avec... Eh ben, ça, c'est... Il peut bien y avoir toutes les captations du monde. Ce moment de rassemblement et ce moment d'émotion intense à tous, je ne le vis pas.
Je, Mais je pense qu'on se manque. Vous manquez les acteurs, les gens sur la scène, la présence, l'action qui se passe pendant qu'on est là. Et les artistes, vous nous manquez aussi. C'est la même chose, ça fait partie, c'est une relation indispensable entre tous les deux. Et puis on vous manque et vous nous manquez. C'est partagé par nous tous. On aurait hâte. Là, j'assiste à la fin des laboratoires. Mais je vais plusieurs fois pendant la semaine. Mais à la fin, il y a toujours un enchaînement ou deux. Puis j'invite. Je demande au moins à une personne de venir ou deux pour qu'ils aient l'impression d'être devant des publics. Mais même quand on est quatre dans la salle, c'est déjà pour eux quelque chose.
Oui.
Mais simplement pour vous traduire à quel point ils veulent. Vous manquez à ces gens qui travaillent. C'est dit tout le temps.
Je comprends ça, puis je comprends qu'avec, je vais peut-être dire des choses qui vont faire que je vais me faire taper, mais quand les théâtres ont réouvert et que les gens étaient en distanciation et qu'il y a eu des gens qui ont été reçus, on n'a jamais parlé d'une quelconque prise de la COVID à ce moment-là, donc les rassemblements étaient respectés. Alors bon sang, mais pourquoi on ne peut pas revenir à ce mode-là?
C'est sûr que nous, on suit les directives et puis on sait que c'est des choix compliqués que les gouvernements font et que c'était l'esprit de ne pas vouloir rassembler des gens, donc c'est-à-dire ne pas les amener au pas d'une même porte, de les faire entrer par une main. Tout ça, malgré que tout le fait qu'on a vraiment mis toutes les précautions, vous savez, tous les théâtres sont tout à fait bien équipés. Mais on espère que, vous savez, je sais qu'il y a des églises qui peuvent accueillir 25 personnes, je pense, en ce moment, ou les lieux de culte, où il y a des exceptions. Enfin, est-ce que je me trompe, ou il n'y a pas des places
qui
permettent 25 personnes? Et on espère qu'ils vont permettre aussi, on permet à des gens d'être dans des lieux comme ça. Les lieux de théâtre, c'est aussi un lieu de recueillement. C'est aussi un lieu où on vient se soigner son cœur, ou en tout cas alimenter son cœur, son esprit, tout ce que vous voulez. Donc peut-être de nous laisser de l'espace, parce que vivre sans public pendant encore 6 mois, ça va être...
Et ça va être dramatique pour être vous, dramatique. Bien sûr, pour plein de choses, et puis le financement, mais pour nous aussi, parce que sachez
aussi
une chose, que d'aller pouvoir s'acheter à manger, c'est une chose, mais pour ne plus pouvoir aller au théâtre, écouter de la musique ou faire des tas, c'est au moment où on en est privé qu'on se rend compte à quel point ça fait partie de notre vie et de notre espace, et à quel point on y tient.
Oui, alors, je suis heureuse de vous l'entendre. En fait, nous faisons cet échange-là tous les deux, que il va falloir retrouver ce lien-là, j'espère, le plus vite possible. Je sais, vous savez qu'il y a des techniciens qui changent de métier en ce moment.
Ah oui,
Peut-être qu'il y a aussi des acteurs, aussi des jeunes acteurs, ou même d'autres qui disent, comment je vais vivre dans les prochaines années?
Évidemment.
Où va être ma place dans tout ça? Il y a tellement de projets qui se cumulent, là. On est rendu à 2-3 saisons où on est en train de remettre d'une saison à l'autre. Et qu'est-ce qui arrive aux nouveaux créateurs qui vont dire, mais où je vais trouver une place, moi, là-dedans?
C'est ça aussi.
C'est très compliqué.
Oui.
Oui.
De l'entendre aussi, ça doit faire mal.
C'est ça.
On arrive plus ou moins à la fin de cette entrevue. Je me dis que on peut prier aussi, croire, et puis se dire que il y a peut-être une ouverture qui peut se faire, et même s'il faut y aller que 25 par 25, au moins pouvoir profiter de ça, quoi, prendre ça et puis l'étaler sur plusieurs jours.
Oui. Voilà.
Pour remplir
les coûts de production, vous savez, à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Pour chaque soir, ça donne. Mais là, il y a un peu des aides gouvernementales qui arrivent, mais on est en train de faire les calculs sur si on a tant, est-ce qu'ils vont rembourser, combien de pourcentage et tout ça. Oui, il y a une aide, mais ça ne comble pas tout. Hein. Ça ne comble vraiment pas tout.
Il faut avoir le cœur et en même temps, il faut avoir la tête pour penser à tout le reste aussi. Oui. Je n'envie pas votre place, Carmen Jolin.
Mais
en tout cas,
je vous le souhaite pas non plus.
Mais en tout cas,
continuer à parler de nous.
Oui, bien
ça,
sûr.
Déjà, C'est déjà votre participation est précieuse.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de vous entendre. Et puis, puis j'espère vraiment que les portes des théâtres se réouvriront pour qu'on puisse enfin reprendre notre bonheur là où on l'avait laissé.
Oui, voilà. Merci, c'est bien dit. Et puis, dès que ça se passe, on se reparle.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir,
merci.
Carmen.
Au revoir.
Je me rappelle, j'oublie. Je me rappelle, j'oublie. Je me mets une note sur mon cell de m'appeler. Je m'appelle, oui, allô, Michel, oui, c'est qui? C'est Michel. Ah oui, pourquoi tu m'appelles? Je sais plus, j'oublie. Ah, dommage, ça te revient. Ça me revient, je te rappelle. OK, parfait, bon, ben, bye. Ouais. Je me rappelle. Allô, Michel, encore toi? Ouais, c'est ça. Je me rappelle que je t'appelais pour te dire une chose qu'il fallait pas t'oublier, mais j'ai encore oublié. Ça t'arrive-tu, toi, des fois? Ben oui, je suis toi. Hein? Ce qui t'arrive m'arrive, donc quand tu m'appelles, veux-tu au moins te souvenir de ce que tu veux me dire avant de m'appeler? Sinon, tu fais juste fucker notre cerveau. Hey, wow, minute, là. Fucker notre cerveau, on peut se parler mieux que ça. Les chicanes intracérébrales, là, c'est à cause de notre téléphone. En plus, moi, je me mets des rappels sur mon cell dans le but qu'il me rappelle de t'appeler. Puis il fait, il t'appelle, mais il dit pas pourquoi il t'appelle. Puis pendant ce temps-là, j'oublie. J'oublie. Sur mon cell, il y a des vidéos de monde qui se plante sur des skis en arrière d'un bateau qui va vite. Une souris qui court après un chat. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, des affaires pas possibles. Là. Ben maintenant, oui, là, des fois entre deux courriels ou ben quand on enchaîne un texto après l'autre. Le bonhomme a mal au dos, le frère est en prison, la copine est chez l'amant. Puis il y a des belles casseroles en rabais si tu commandes en ligne dans les 10 prochaines minutes. Pratique, hein? Fait que j'oublie. Un oiseau qui conduit une mini-voiturette téléguidée, c'est ben cute, ben non, c'est un petit gars de 8 ans, ben tannant, qui a collé le moineau sur un bas puis qui conduit avec la manette et il monte à la fin du vidéo. On sait plus qui croire, là. Qu'est-ce qu'il annonce demain? On va aller voir. Je me souviens de l'ancien numéro de mes amis que j'appelais quand j'étais petit, de François, de Simon, de Vincent, de Frédéric, de Céline, d'Émilie. Ils ont changé de numéro, ils ont un cell et ça me prend le mien pour leur faire des appels. C'est mon cell maintenant qui se rappelle de tout ça. Mes rendez-vous, mes paiements, les photos de mes enfants, ah ouais, dans l'appareil et tout ce que j'ai besoin, c'est de l'avoir dans mes mains ou pas loin et de garder un contact visuel jusqu'à la fin de ma vue. Ça me garantit en partie ma mémoire. Je peux me coucher la tête vide à tous les soirs. C'est génial. C'est magnifique. Pas tant que ça. Je me rappelle de rien, puis mon cell se rappelle de tout. J'ai le goût de le garrocher au bout de mes bras, mais j'ai peur de plus savoir je suis qui. Je me rappelle, j'oublie. Ouais, c'est ça, un couplet, un refrain. Je me rappelle, j'oublie.
Eh bien, on vient d'entendre Michel Robichaud qui nous chantait « J'oublie ». Moi, je veux pas oublier. Et puis, j'ai envie de vous dire un dernier petit message. Ben, faisons toutes et tous très attention afin que l'on retrouve très vite l'ouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle et tout ce qui nous manque beaucoup en ce moment en dehors de la nourriture du ventre, voilà, celle de l'esprit.
Ça, c'est un beau message. Ça, c'est un très beau message.
Parce que plus tôt on va y arriver, mieux ce sera pour tout le monde.
Oui, on espère que les gens vont respecter toutes les consignes qu'on donne afin qu'on puisse sortir de ce
marasme.
De ce marasme, oui.
On est bien d'accord. Bien, fin de l'émission,
on dit merci. Oui, on dit merci à nos invités. Je dis merci à Claudine Robilla, qui est la coordonnatrice du volet pédagogique des Muses, qui est le centre des arts de la scène, qui est une école uniquement pour les personnes en handicap, théâtre, danse, chant et autres.
Bravo à elle. Mm-hmm. Merci beaucoup à Carmen Jolin aussi d'être venue nous parler de l'arrière, de ce qu'on voit pas au théâtre et de tous les manques qu'ils ont en ce moment et que nous, on a de vous aussi, croyez-le.
Du pour théâtre tous les Prospero.
Théâtres. Du théâtre Prospero, oui, il faut le dire. Il faut le préciser. Voilà, merci, c'est toujours un petit peu... Quand ça finit comme ça, en disant qu'est-ce que ça va devenir, avec un gros point d'interrogation, moi j'ai envie de dire, regarde, si on s'y met tous, on va arriver à se sortir de là.
En on tout espère. Cas, j'espère. Moi, c'est mon souhait le plus noble, en tout cas, de retourner.
Merci à toutes et tous. Merci à Maurice Bolduc.
De retrouver mon visage sans masque.
merci à toi. Fulgence,
merci
à demain.
À toi aussi. Maurice, merci à toi. Et puis bon, prenez soin de vous et à demain.
À demain, au revoir.
Au revoir.